Alors bonjour à tous, et merci pour votre présence, merci aussi aux organisateurs. C'est vraiment un plaisir d'être là aujourd'hui, et en plus c'est un petit côté réunion de famille de voir beaucoup de chercheurs qui travaillent sur le Rwanda. On se côtoie assez souvent, mais c'est toujours très agréable de se revoir. Alors je vais vraiment essayer d'inscrire ma présentation dans le cadre de cette matinée sur la thématique des modes d'écriture et de transmission de l'histoire du génocide, en revenant en particulier sur la question des mémoriaux et comment l'État rwandais a essayé de transmettre l'histoire ou une histoire du génocide à travers les mémoriaux. Je vais surtout parler des mémoriaux nationaux. Du coup, c'est vrai que je vais assez peu parler des questions qui d'habitude m'intéressent beaucoup sur l'histoire culturelle du deuil, le rôle des rescapés, etc. Alors qu'à mon avis, principalement, les mémoriaux, ce sont des lieux de deuil hein, avant d'être des lieux politiques. Et je me suis même posé la question, finalement, de la pertinence de la thématique que j'ai choisie aujourd'hui. Ce qu'il faut rappeler aussi, pour ceux qui connaissent assez peu la question des mémoriaux au Rwanda, c'est qu'il n'y a pas vraiment de culture monumentale au Rwanda avant le génocide. Il y a une vraie rupture après le génocide avec la construction de monuments. Il y a très peu de patrimoine matériel avant 1994. Il n'y a pas non plus d'art funéraire très développé. Et donc, le génocide a induit vraiment une rupture de ce côté-là. Et du coup, alors là, j'ai montré cette photo, par exemple, du principal, j'allais dire, d'un des principaux mémoriaux en termes d'architecture et de taille, qui est le mémorial de Bicicero. Mais on a des sites qui sont extrêmement différents. Là, par exemple, c'est plutôt un cimetière qui est près de Gitarama. Et donc, je me posais la question, mais au fond, si je parle de transmission de l'histoire, quel est le lien entre un mémorial comme Bicicero et un site comme ça? Et qu'est-ce que ces sites, finalement, transmettent? Ce que je vais essayer de faire, en fait, c'est de réinterroger la question que je me posais en me demandant en quoi ces mémoriaux interrogent la façon dont on écrit l'histoire et l'histoire qu'on n'écrit pas. Je vais vous expliquer ce que je veux dire par là. Alors, avant de commencer la présentation à proprement dite, je voulais donc proposer quelques réflexions sur les liens entre histoire et étude des mémoriaux. Et tout d'abord, ce que je trouve vraiment intéressant quand on s'intéresse à cette question des mémoriaux, c'est que la question qui est le plus souvent posée par les chercheurs et qui m'a souvent été posée, y compris par des chercheurs rwandais, c'est est-ce que ces mémoriaux contribuent à la réconciliation ? Qui est une question que je trouve toujours assez étrange, comme si le mémorial avait sa propre agentivité ou agency, comme on dit en anglais, comme s'il avait sa propre force, alors qu'en fait, ce qui fait sa force, c'est vraiment la communauté autour. Et ce que je trouve toujours intéressant, c'est que du coup, c'est chez certains chercheurs, certains types de mémoriaux, la façon dont ils fonctionnent au niveau de la scénographie est critiquée, car elle, par exemple, rappellerait trop le crime aux communautés Hutus, alors qu'on dirait jamais, par exemple, est-ce que la présence des rescapés gêne les Hutus au Rwanda. Donc ça, je trouve ça assez intéressant, la façon dont on va critiquer les mémoriaux pour cette raison. Au-delà de ça, si on s'intéresse à la question de l'écriture de l'histoire, je pense aussi qu'il y aura des vraies réflexions à faire sur quels concepts nous gênent en tant que chercheurs pour écrire l'histoire. Et je pense que le concept de réconciliation pose de vraies questions. Je passe assez rapidement là-dessus, mais c'est très flagrant actuellement sur les questions de mémoire, comment le fait qu'il y ait une politique de réconciliation fait qu'on a tendance à réécrire l'histoire et du génocide et l'histoire antérieure. Je vais donner un exemple assez concret qui sort de la question des mémoriaux, mais qui a fait beaucoup parler chez certains chercheurs au Rwanda en 2014. Il y avait une pièce de théâtre qui s'appelait Shadows of Memory lors de la 20e commémoration du génocide, et où finalement on avait une histoire globale depuis le début du 20e siècle qui était présentée, et on passait presque très rapidement finalement de la colonisation au génocide, comme s'il n'y avait pas de première et de deuxième république. Et ça pose plein de questions vraiment sur comment cette politique de réconciliation et de mémoire peut arriver à incorporer une histoire la plus scientifique possible de la Première et de la Deuxième République. La deuxième réflexion, toujours en introduction, c'est qu'il y a au Rwanda une vraie tendance à analyser les politiques publiques, mais aussi une analyse au sein des sciences sociales, à analyser tout, à quantifier en termes d'efficacité. C'est-à-dire, j'appelle ça un effet indirect de la mentalité imigo. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'idée qu'il faut des contrats de performance pour que les politiques publiques soient efficaces. Et ça a un vrai impact dans l'écriture de l'histoire au Rwanda, le réel actuel étant parfois décrit comme celui qui est le meilleur réel possible, comme ce qui pouvait être fait de mieux. Et je vais donner un exemple très concret pourquoi c'est important pour la façon de travailler sur la mémoire. il y a 2 ans, au sein d'un ministère, j'avais trouvé des archives qui portaient sur la question des mémoriaux qui n'avaient pas existé. Donc des mémoriaux qui n'existent pas, en fait. Il y avait eu des projets de mémorialisation et finalement, ça ne s'est pas fait. Et j'ai essayé d'expliquer à l'archiviste pourquoi, de mon point de vue d'historien, c'était fascinant puisque justement, ça n'existait pas. Et elle me disait, au contraire, ça n'a aucun intérêt puisque ça n'existe pas. Et même, c'était dit, peut-être qu'on devrait jeter ces archives. Et ça, toute la réflexion, à mon avis, qu'il faut avoir quand on parle de mémoire, d'histoire et de représentation, et c'est un peu les débats autour de ces 3 jours, c'est de se demander, au fond, non pas que nous disent les mémoriaux qui existent, mais qu'est-ce qu'on n'a pas patrimonialisé, et du coup, qu'est-ce que ça signifie, ce qu'on n'a pas patrimonialisé. Alors, à partir de cette carte, je voulais parler de ça, et je pense que j'aurais pu faire une intervention qu'à partir de cette carte. C'est qu'il y a actuellement à peu près 8 mémoriaux nationaux au Rwanda, 7 ou 8. Et si on se rend compte, alors là, je sais pas si vous voyez la souris que je montre ici, mais on a 12 préfectures, ça c'était à peu près les préfectures à l'époque du génocide. On a 5 mémoriaux qui sont sur 2 préfectures très proches, Kigali et Kigali-Ngali. Et donc on a des préfectures entières où officiellement il n'y a pas de mémoriaux nationaux. Là, ça pose des vraies questions, c'est... Est-ce qu'il y a des mémoriaux nationaux parce que ça répond à la logique du génocide même, ou est-ce que ça répond à la logique de construction des mémoriaux post-génocide? Alors ça, c'est, la réponse est oui. Et du coup, ça pose plein de questions sur, vu qu'il n'y a pas de mémoriaux nationaux, dans les représentations, on pense surtout aux mêmes sites, Nyanza, ou Nyamata, Narama, le Bugesera, etc. Et il y a des zones entières, je pense à les préfectures de Tchangougou, où il y a eu des massacres très importants. Par exemple, si on parle de la paroisse de Nyamasheke, ça fait partie vraiment des gros lieux de massacre du génocide, dans une église en plus, et ça, personne ne le connaît. Et vu que ce colloque porte en particulier sur les questions de représentation, je pense que c'est vraiment intéressant de réfléchir aussi comment le fait de toujours parler des mêmes sites, ça induit ensuite aussi chez les chercheurs de ne plus écrire sur ces sites-là. Et c'est, à mon avis, vraiment, vraiment flagrant. Et il y aurait beaucoup de débats à avoir là-dessus, mais j'ai l'impression que pour le Rwanda, il y a eu une accélération de la mémoire, c'est-à-dire qu'autant ça a pris beaucoup de temps pour la Shoah, autant pour le Rwanda, ça a été très rapide. On a déjà l'impression qu'on veut clôturer la mémoire, c'est-à-dire comme si on avait déjà tous les éléments en main, alors qu'au fond, l'histoire du génocide, on commence à l'écrire au niveau national et surtout au niveau local. Ceci étant dit, c'est une longue introduction. Je vais essayer de donner quelques éléments donc, sur la politique de mémoire au Rwanda. Depuis le début. Alors dans l'après-génocide, le Rwanda donc, a beaucoup de priorités, que ce soit la question des réfugiés qui sont à l'extérieur du Rwanda, surtout les réfugiés Hutu, les réfugiés 59-73 arts qui reviennent au Rwanda, la question des destructions, plus d'un million de morts, etc. Et la mémoire fait partie de ces priorités, mais c'est en même temps difficile de gérer ça. Cependant, très rapidement, la question importante, c'est la question de l'enterrement en dignité des victimes, qui va conduire du coup les rescapés, les autorités locales et nationales, mais aussi l'Église catholique, à mettre en place des enterrements du génocide, principalement collectifs, sans avoir vraiment le temps de parler de ça. C'est le fait que les enterrements, pour la première fois, ont été collectifs, alors qu'avant, ils étaient plutôt, on enterrait les personnes chez soi. C'est autour de ces enterrements collectifs qu'on va créer des mémoriaux au Rwanda. Et donc, ça, c'est au tout début, en 1994. Mais assez rapidement, au niveau de l'État rwandais, il y a quand même la volonté de créer des mémoriaux au niveau national et de gérer cette mémoire. Il y a des premiers projets qui sont mis en place dès 1994, par exemple par Eric Rousseau, qui est un personnage assez incroyable, belge juif, qui travaillait pour le ministère de la réhabilitation et de l'intégration sociale et qui se sert de sa mémoire, de ses expériences à Yad Vashem et ses visites à Yad Vashem pour proposer un projet de mémorial national. Mais il y avait aussi d'autres projets de mémoriaux au sein d'autres ministères, en particulier le ministère de l'Enseignement supérieur. Mais c'est vraiment avec le travail d'une commission particulière, la commission pour le mémorial du génocide et des massacres, rien que le nom de la commission est très clair, commission pour le mémorial, qu'il existe un projet national d'écriture de l'histoire et de patrimonialisation de l'histoire du génocide. Alors cette commission, très rapidement, elle comprenait 6 membres détachés de différents ministères, et son objectif résidait dans l'identification donc, des sites du génocide dans tout le Rwanda. Alors elle a travaillé très rapidement, sur 6 semaines sur le terrain et ensuite à peu près 2 mois d'écriture. Mais de façon assez intéressante, c'est que le rapport qu'elle a remis en février 1996, c'est le seul véritable rapport sur l'histoire du génocide publié par l'État rwandais et qu'elle a eu un rôle assez majeur ensuite, enfin assez important au TPIR, y compris pour ensuite pour les gachacha, pour les tribunaux de première instance, mais que le rapport a disparu dans l'oubli pour des raisons que je ne développe pas ici. Et donc, mais ce rapport a invité donc le gouvernement à ériger des mémoriaux communaux sur un lieu unique. Aussi, il a encouragé à créer des cimetières, à mettre ensemble les ossements et proposer un véritable projet de création de mémorial national à Rébero qui n'a finalement pas vu le jour. Alors, ensuite, cette commission, son travail dure jusqu'au début des années 2000, puis elle change de nom, devient Division Mémoriale et finit par s'intégrer au sein d'une grande commission en 2008 qui est la Commission nationale de lutte contre le génocide qui intègre cette commission et maintenant travaille de façon générale sur les questions de mémoire. Alors, ce que je voulais proposer très rapidement, et c'est un peu par point et par quelques éléments, c'était de dire toute la difficulté pour l'État rwandais à ce moment-là, après 1994, c'est de se dire qu'est-ce qu'on doit patrimonialiser, qu'est-ce qu'on ne doit pas patrimonialiser. Et c'est une question qui est très complexe. Ça, c'est une photo très récente, mais je voulais vous montrer parce qu'elle est caractéristique de la difficulté de la cohabitation entre la mémoire et le présent actuellement. C'est une photo du Home Saint-Jean à Kibouye. On voit d'un côté, alors je ne sais pas si vous voyez la souris, ici il y a écrit « Mémorial du génocide ». Ici, il y a écrit « Bienvenue au Home Saint-Jean ». Ici, on a l'église, ici, on a le mémorial. Donc là, on a une vraie cohabitation entre un mémorial et le présent. Ça a été particulièrement difficile, cette cohabitation, pour l'État d'essayer de continuer à créer des lieux de mémoire, mais aussi dans un certain nombre de lieux, il était trop difficile de laisser cette cohabitation, donc on n'a pas patrimonialisé. Et là, je pense qu'il y aurait une vraie réflexion à faire sur la non-patrimonialisation des lieux de mémoire, est-ce que ça signifie. C'est assez difficile d'avoir d'ailleurs des sources là-dessus, puisque justement, et là, si on parle d'écriture de l'histoire, on a beaucoup de travaux sur les mémoriaux, à mon avis, parce qu'ils sont visibles. Et comment, quand on est chercheur, on travaille sur l'invisible. Et à la différence, par exemple, si on s'intéresse à la mémorialisation pour la Shoah, on a toujours beaucoup de sources disponibles, on a des correspondances, on a des archives nombreuses. Sur les lieux non patrimonialisés, c'est un peu différent au Rwanda, et donc ça rend les choses plus complexes. Mais des fois, par contre, on trouve quand même dans les archives étatiques des demandes. Je donne un exemple très concret, un habitant de Nyamirambo qui demandait à ce que sa maison devienne mémorial du génocide, parce que comme dans beaucoup de maisons à Kigali, mais aussi ailleurs, il y avait des corps dans les latrines, et il disait je ne peux pas continuer à ce que ce soit ma maison, en même temps j'ai besoin d'une autre maison, donc il demandait un dédommagement si possible, et l'État rwandais bien sûr ne pouvait pas le faire parce qu'il y avait trop de maisons concernées. Alors il y a eu finalement des processus d'exhumation des corps, par exemple à Nyamirambo, et tous les corps ont été mis dans un grand mémorial à Kigali, mais ça pose maintenant la question de comment on sait que tous ces corps venaient de ces maisons-là. Et ça, on ne le sait pas. Il y a quand même eu des débats, et ces débats ont surtout posé, c'est assez intéressant au niveau de la question des églises, sur la nécessité de mettre des traces pour se rappeler que si en ces lieux, il y a eu des massacres. Parce que finalement, actuellement, si on va au Rwanda, il y a plein d'endroits où on n'a pas vraiment de traces. Alors ça allait au niveau des mémoriaux, mais là où les massacres ont eu lieu, on ne le sait pas toujours, parce que les mémoriaux, certains sont sur des sites de massacres, mais il y a aussi un certain nombre de mémoriaux qui sont non pas sur des sites de massacres, mais qui ont été créés ailleurs. Et là, ça pose la question de l'authenticité, etc., mais aussi même pour un historien, de où les gens sont morts, si on n'a pas de rapport qui nous explique où ils sont morts. Ça, c'est un exemple très concret, c'est à Nyundo. C'est un exemple particulier puisque c'est la première église à avoir décidé de mettre elle-même des signes disant que les personnes sont mortes dans l'église. Et c'est un cas vraiment, vraiment particulier et qui dit en gros que chaque personne qui rentre dans ce lieu doit se souvenir du génocide. Alors c'est pas dit comme ça, mais en gros doit se souvenir du génocide. Et il y a eu tout un tas de débats. Alors, ces débats, c'est vrai que c'est assez intéressant sur la question des signes, ont surtout porté sur l'Église catholique, sur comment rappeler qu'il y a eu des massacres dans les églises, tout en laissant le culte reprendre. Alors, je n'ai pas le temps de parler de ça ici, mais il y a eu une commission en charge de ça, entre l'Église et l'État, de la gestion des sites mémoriaux et de est-ce qu'on continue ou pas le culte. Il y a un cas très particulier, c'est Kibéo, où on a mis là où les tueurs étaient rentrés, il y avait avec des grenades percées l'église, on a repeint cet endroit. Alors, la principale façon dont l'État rwandais, dans les mémoriaux, a au niveau de la scénographie, la façon dont on a transmis l'histoire, ça a été par la question des corps. Alors, Hélène s'attendait à ce que j'en parle un peu, et c'est vrai que moi, je m'étais dit que je ne vais pas en parler. Parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est très souvent débattu, et je pense qu'un certain nombre de personnes connaissent ces débats dans la salle. Mais c'est vrai qu'au Rwanda, ce sont les corps qui ont fait office, en fait, de preuves historiques, de preuves du génocide, et les corps et les ossements ont été tout de suite considérés dans ce sens-là, dans un sens véritablement historique, comme élément de réalité. Ce qui est intéressant, c'est que l'argument, ça a toujours été aussi de dire que l'histoire, elle est connue par la population. Si on parle, par exemple, des enquêtes médico-légales, il y en a eu très très peu au Rwanda. Et l'un des arguments des autorités rwandaises, c'est aussi de dire on n'a pas besoin des enquêtes médico-légales, car la population sait ce qu'il s'est passé. Donc le corps sert de rappel de l'histoire, mais l'histoire en elle-même, la population le sait. Avec toute la difficulté, c'est que du coup, dans beaucoup de mémoriaux, finalement, on avait des corps, des ossements, etc., mais on n'a pas d'écrit. On n'a pas de traces écrites, et donc ce sont des lieux qui parlent assez peu en eux-mêmes. Je voulais du coup parler autour de ça, mais je vais essayer d'aller assez rapidement. Il y a aussi une très grande difficulté après le génocide, c'est comment on symbolise le génocide, c'est-à-dire comment on fait mémoire. Et ça, c'est une question qui est très complexe, parce que, par exemple, l'État rwandais, enfin la commission mémoriale, a mis en place un concours symbole du génocide après 1994, qui avait pour but de trouver un symbole du génocide, en se disant comment on peut parler du génocide, comment on peut le symboliser. Une cinquantaine de dessins avaient été envoyés à la commission. La grande majorité sont des dessins traumatiques. C'est-à-dire qu'on n'était pas du tout dans des dessins symboliques. Au contraire, c'était extrêmement violent. Et donc, voilà, l'État rwandais ne savait pas autrement que par les corps mémorialiser. Alors, je pourrais donner plein d'exemples, mais les dessins, ça ressemble très souvent à ça. C'est-à-dire des dessins vraiment très, très, très durs. Il y en a qui sont encore plus durs que ça. Et c'était censé être un concours symbolique, enfin pour symboliser le génocide. En fait, il y a une impossibilité de symboliser après le génocide, de donner autre chose qu'une description très concrète. Là encore, je donne un exemple. Ça, ce sont des timbres commémoratifs en 99. Imaginez, ce sont des timbres commémoratifs. C'est-à-dire, c'est pas symbolique du tout. Alors, bon, je vais passer rapidement là-dessus, mais c'est vrai que il y a très très peu de représentations aussi artistiques dans les mémoriaux. Il y a quelques rares exemples. Là, c'est un exemple d'un mémorial à Mugonero. Il y a peut-être 3, 4, 5 mémoriaux où il y a des sculptures de ce type. En général, il n'y en a pas. Ou alors des représentations de ce type-là, mais qui sont toujours très violentes. C'est-à-dire qu'on est dans on rejoue finalement le génocide dans la présentation. Ou un autre exemple, alors qui n'est pas très connu, qui est à Mibilizi. Mais c'est toujours des sculptures assez simples. Alors, pour continuer, je vais expliquer cette photo. Il faut vraiment attendre l'arrivée d'une fondation qui s'appelle Aegis Trust, qui est une fondation britannique qui arrive au début des années 2000, pour qu'il y ait, on va dire, des vrais programmes muséographiques. Alors, vrais, pas au sens où les autres sont faux, mais au sens où on l'entend, c'est-à-dire plus classique. Maintenant, il faut bien comprendre que la façon dont les mémoriaux sont faits au Rwanda, c'est-à-dire avec les corps, avec les vêtements, etc., c'était pensé. C'est-à-dire que ce n'était pas du hasard. Le Musée national du Rwanda avait développé, et c'était des muséographes qui avaient choisi de faire ça. Dans d'autres sites, en particulier des musées mémoriaux, alors au mémorial de Gisozi à Kigali et aussi à Murambi, on a maintenant des programmes muséographiques et éducatifs qui sont beaucoup plus proches de ceux à quoi on est habitué. Avec une inspiration très forte des musées mémoriaux de la Shoah, alors tant au niveau de la muséographie qu'aussi au niveau des formes de représentation. Et là, je voulais montrer cette photo, qui est une photo de Nathan Rera, qui l'avait prise à Gisozi, qui pose aussi la question de la façon dont on va plaquer des modèles d'écriture historique. Déjà, ça, on pourrait en parler, le fait que la façon dont on écrit des fois l'histoire du génocide des Tutsis est très liée, voire trop liée, à la façon dont on a écrit l'histoire de la Shoah. Mais aussi, du coup, vu que c'est pareil au niveau mémoriel, ça ne marche pas des fois. Et là, j'en ai un exemple, c'est la question du mur des noms. Alors, le mur des noms, ça pose un problème au Rwanda, c'est qu'on ne partage pas les mêmes noms dans la famille. Et du coup, la logique de famille, on ne la voit pas sur un mur des noms. Deuxième problème, on n'a pas les mêmes sources archivistiques. Et donc, voilà, on voit que finalement, on a essayé de faire des murs des noms, mais on a des murs vides. Alors, en soi, c'est presque, j'allais dire, artistique ou poétique, puisque ça montre qu'on n'arrive pas à connaître les personnes. Mais en même temps, on voit qu'on ne peut pas plaquer comme ça des modèles mémoriels. Pour continuer, et du coup, je suis désolé, je vais un peu rapidement sur la politique de mémoire, je ne donne que certains éléments. Il y a une vraie évolution dans la façon dont on gère la politique de mémoire avec la mise en place de la CNLG, donc la Commission nationale de lutte contre le génocide, en 2008, qui va renouveler tous les symboles, on va dire, de liturgie mémorielle et la façon dont on représente la mémoire du génocide au Rwanda. Comme je vous disais, on n'arrivait pas à montrer des symboles après le 94. Maintenant, on arrive à avoir des symboles. Un exemple concret, c'est le fait que maintenant, on a un symbole qui est la flamme du souvenir. Ce qui est assez intéressant, c'est que pendant très longtemps, je pensais que la CNLG avait copié la flamme de la fondation Aegis, qui existe aussi au Rwanda. Et très récemment, il y a 2 semaines, dans une archive, j'ai vu qu'en fait, dès 1995, il est admis que la flamme doit être le symbole de mémoire du génocide. Mais il y avait eu une difficulté à ce que ce soit ça. Finalement, c'était plutôt par des choses non symboliques qu'on voulait montrer la mémoire du génocide. Très rapidement aussi, donc une vraie évolution pour les mémoriaux, un certain nombre de mémoriaux. Je vais me concentrer sur un cas particulier, c'est celui de Gatwaro qui est à Kibuye. C'est un cimetière qui a été mis en place en 1995. Beaucoup de personnes avaient été tuées dans le stade à côté, mais on a mis des personnes dans le cimetière à côté. Alors ça, c'est une photo qui date d'il y a quelques années, et on voit encore le stade. Depuis quelques années, donc on a un changement, on va dire, donc de la liturgie mémorielle. La première, c'est qu'on a changé la couleur du deuil. Ça dit beaucoup sur les relations entre l'Église et l'État, et aussi la laïcisation des pratiques mémorielles. On est passé, alors officiellement, avant on disait que le violet était couleur du deuil au Rwanda, mais en fait c'était pour l'Église catholique, surtout que c'était couleur du deuil. Et dans un effort d'indigénisation de la tradition, on dit maintenant que la couleur du deuil du génocide, c'est le gris. Donc on a été chercher des éléments historiques, mais qui sont, comme à chaque fois, on peut en débattre. L'autre chose, c'est qu'il y a eu une uniformisation de la façon dont les mémoriaux sont construits. Il y a aussi une uniformisation des inscriptions. Si on regarde là, on avait plusieurs inscriptions en français, anglais, kinyarwanda, Rwanda, et il y avait un texte. Et dans tous les mémoriaux du génocide au Rwanda, il y avait des textes très différents. Il y a un chercheur rwandais qui s'appelle Augustin Rudachogora, qui a pas mal travaillé là-dessus. Et on voit qu'il y avait plein de façons de décrire le génocide au niveau local. Maintenant, il y a une façon de le décrire qui est beaucoup plus sobre et finalement très simple. Et ça, c'est un effort général de, si on parle de la langue, c'est très important, de maîtriser la langue de mémoire. Le Haut Conseil des médias, par exemple, a publié un rapport qui, dans sa façon d'écrire, est un peu problématique, puisqu'il dit « on ne dit pas, on dit », et qui, du coup, en fait, réduit considérablement la façon dont on doit parler de la mémoire. Au risque, d'ailleurs, pour les journalistes, s'ils en parlent mal, d'avoir des problèmes. Et ça, c'est vrai que si on parle de la langue, il y aurait des vrais débats aussi sur comment on parle de la mémoire, parce que dès 94, c'est une vraie question. Je donne un exemple très concret. En 95, il y a des débats au Parlement et un des députés dit il faut qu'on s'interroge sur comment on nomme les corps, les restes humains, etc. parce qu'il n'y avait pas de mots pour les désigner dignement. Bon, c'est un exemple concret. Je passe rapidement vu que je suis en retard. Donc il y a une vraie évolution de la façon dont on présente la mémoire, et depuis quelques années, la présence des corps est de moins en moins importante et on euphémise la mémoire du génocide. Là, c'est un exemple très concret, c'était le site de la CNLG. Alors on l'oublie, mais moi je l'avais complètement oublié. Ça, c'était la bannière du site de la CNLG il y a 4 ans et ensuite maintenant. Donc ça change très, très rapidement. Alors j'ai pas le temps, je voulais vous parler aussi de la façon dont les mémoriaux maintenant sont convoqués à des fins, on va dire, d'unité nationale, etc. Et là, c'est un exemple quand même très concret d'un chanteur qui, à ce moment-là, était le chanteur principal de la mémoire du génocide. Et ça commence sa chanson où il sort avec un drapeau rwandais d'un mémorial. Bon, on ne peut pas faire plus symbolique de mémorial comme base de l'unité et de la patrie et la nation rwandaise, etc. Je voulais vous expliquer aussi qu'il y a cette uniformisation des pratiques, mais il y a aussi une nouveauté, à mon avis, c'est qu'il y a de plus en plus en fait, de nouvelles façons de penser la mémoire, là, impulsées non par l'État, mais par les rescapés, avec soit des écrits individuels, bon, ça je passe, je passerai aussi sur ça, soit, à mon avis, un événement qui est beaucoup plus important, c'est qu'il y a de plus en plus en fait, de nouveaux types de commémorations, des commémorations spécialisées. Pour l'expliquer très rapidement, il y a des commémorations par exemple, où les rescapés vont commémorer les familles entièrement disparues, d'autres vont commémorer les enfants, d'autres vont commémorer à un niveau très local ou commémorer les personnes qui sont mortes dans les fleuves, etc. Et ça pose toute la question justement de toute l'histoire qui n'a pas été écrite et où on voit bien par les associations de rescapés qui demandent en fait indirectement par ce type de commémoration et de non-mémorialisation qu'on écrive mais aussi qu'on crée des monuments. Il y a eu un rapport il y a quelques années par des chercheurs rwandais sur cette question-là, et je vais m'arrêter là-dessus, qui appelait justement à la création de mémoriaux sans corps à l'intérieur, mais qui soient plus historiques. Par exemple, un mémorial en faveur des Ibiitso qui ont été tués au début des années 90, un mémorial pour les personnes tuées dans les sites naturels, un mémorial pour tel ou tel type de victime, un mémorial pour la RTLM, avec l'idée justement de, on peut écrire l'histoire du génocide par le biais de monuments qui soient de cette façon-là. Et je vais m'arrêter là.